France Inter. Le 18-20, Fabienne Saintès.
On est bien d'accord, hein, 70% de notre énergie provient du nucléaire d'ici à 2040, donc demain ce chiffre sera tombé à 50. Très bien, donc il faut trouver rapidement de quoi compenser sans que nous nous en rendions compte en ayant toujours l'électricité nécessaire et ne nous leurrons pas, notre consommation d'électricité, elle augmente. Pour l'instant, l'énergie renouvelable c'est 16%. Notre électricité, il faut monter à 30, le calcul il est facile, 30 en moins de 10 ans. Les éoliennes, au début on a trouvé ça formidable. Quoi de plus naturel que la force du vent pour nous éclairer et nous chauffer? Les éoliennes en plus du photovoltaïque, puisque rien pour l'instant ne saurait entièrement remplacer le nucléaire. Mais le vent a tourné, c'est pas la tempête, mais gros temps quand même. Manifestation ce week-end encore à Dunkerque, protestation à Saint-Brieuc le 29 mai dernier, qui va devenir d'ici à 2023 l'un des tout premiers parcs éoliens en mer en France avec Saint-Nazaire. Et ne parlons pas de cette tribune de Stéphane Bern qui a allumé toutes les mèches il y a une quinzaine de jours à peine. Les éoliennes, il faut qu'elles soient nombreuses, bah oui, et elles se voient de loin, certes. La vraie question, c'est quand on parle de nuisances, de quoi parle-t-on exactement? Quand on parle de dégâts écologiques, de quoi parle-t-on? Quand on parle d'énergie, de quoi parle-t-on aussi? Un parc éolien, ça remplace combien de réacteurs nucléaires? Est-ce que mon électricité sera plus chère, moins chère? Pour l'instant, il y a 8000 éoliennes en France. Ce chiffre doit être multiplié par 2 d'ici à 8 ans, et par rapport à certains de nos voisins, nous sommes très en retard. Vent dans les voiles ou plomb dans l'aile chez les éoliennes, si le téléphone sonne, et soyez les bienvenus. Soyez les bienvenus, ça veut dire qu'on doit normalement arrêter le générique et démarrer. Voilà, bon bah si le générique ne veut pas s'arrêter, c'est pas grave. La première question, eh ben, c'est tout de suite et elle nous vient de Michel. Bonsoir Michel.
Oui, bonsoir.
Ah ben voilà, déjà vous êtes là, c'est la première bonne nouvelle. Soyez le bienvenu Michel, on vous écoute.
Oui, je voudrais poser la question, est-ce qu'on ne devrait pas, pour la acceptabilité de l'éolien et du photovoltaïque au sol, par exemple, ne devrait-on pas montrer l'exemple en mettant prioritairement sur des zones déjà anthropisées, c'est-à-dire les bords d'autoroute, les zones commerciales ou près des zones commerciales, les parkings de supermarchés, etc.
Donc vous dites en gros, Michel, mettons-les là où c'est déjà moche, en gros, pour dire les choses aussi simplement
voilà,
que ça.
Voilà, pour éviter, pour à tout prix éviter, parce qu'on a besoin des terres agricoles et de d'artificialiser les terres agricoles dont nous avons besoin. Et sachant que nous ici, on a du uranium qui n'arrive pas de France, mais d'Afrique et de Kazakhstan et qui fait 16 000 mètres cubes par an ici dans l'eau de déchets, quoi, dont nous ne savons que faire, voilà, soit un million de mètres cubes en 50 ans. Quoi.
Merci beaucoup Michel pour votre question et pour cette entrée en matière pour discuter ensemble jusqu'à 20h ce soir. Nicolas Goldberg est avec nous, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes consultant spécialiste de l'énergie. Geoffroy Marx est là également, bonsoir Monsieur Marx.
Bonsoir.
Vous êtes responsable énergie et biodiversité à la LPO. Et puis Célia, spécialiste environnement à France Inter, également avec nous dans le studio.
Bonsoir.
Pour discuter ensemble. Nicolas Goldberg, j'ai envie de vous retourner la question de Michel, est-ce que ce serait aussi simple si l'un des problèmes était effectivement le paysage et la destruction visuelle, de se dire on n'a qu'à les mettre ces éoliennes là où c'est déjà moche?
Bah, en fait on le fait déjà, c'est-à-dire que quand vous prenez aujourd'hui le train ou que vous circulez sur l'autoroute du soleil ou n'importe quelle autoroute, on voit qu'il y a déjà un certain nombre d'éoliennes implantées. Et alors moi en France, mais dans des pays comme l'Espagne par exemple, on voit déjà qu'il y a des grands champs de panneaux solaires au sol. Mais ça suffira pas, en fait. C'est bien ça le souci, c'est que les énergies renouvelables, éolien, solaire, sont des énergies décentralisées, elles sont moins concentrées que les énergies fossiles et les énergies fissiles. Il faut bien voir qu'on a 18 centrales nucléaires en France pour produire les trois quarts de notre électricité. Donc on voit à quel point c'est concentré par rapport à 8000 éoliennes qui produisent aujourd'hui 6% de notre électricité. Mmh. Donc oui, évidemment, on le fait, parce que c'est là que c'est plus facile à mettre, c'est là qu'il y a moins d'opposition. Par contre, est-ce que ça suffira ? C'est compliqué. Et d'ailleurs, EDF, qui a un grand plan solaire, avait déjà communiqué en disant que un des principaux freins à leur plan solaire, ce sera la disponibilité du foncier.
Et pour les éoliennes, c'est pareil. Donc, pour expliquer aux gens, alors comment on dit d'ailleurs, les parcs font combien ? Parce qu'on en voit de toutes les tailles. Est-ce qu'il y a un standard ? Certainement pas. Mais est-ce qu'il peut y en avoir par endroit ? Parce qu'on voit des fois, il y en a que 4. Et puis parfois, en revanche, c'est beaucoup plus important. Comment ça se détermine, ça ?
Bah, en fait, ça dépend du projet qui était en amont, ça dépend du commanditaire, et ça dépend aussi des autorisations qu'on a pu avoir. Mm-hmm. Parfois, on voit des grands parcs, il y en a un projet de grand parc à 12, 16, 20 éoliennes de 2 gigawatts, et puis finalement, avec la concertation avec les agriculteurs, on s'aperçoit que c'est pas pratique, qu'il y a des oppositions, que finalement, on est sur un parcours d'oiseaux migrateurs rares, et donc du coup, on est obligé de diminuer le nombre d'éoliennes. Ça peut dépendre de ça, ça peut dépendre aussi du projet initial. Vous savez, quand c'est parfois des petites coopératives citoyennes, comme le fait Enercoop, mais comme le font certains syndicats d'énergie au niveau régional, il n'y a pas toujours des grands moyens. Mmh. Donc parfois, on commence par faire un petit parc en disant, voilà, c'est un budget coopératif, on a fait avec les moyens, et puis ensuite, en se disant, on l'agrandira un petit peu plus tard, quand on aura des fonds, en voyant si c'est bien accepté, si justement il n'y a pas d'impact sur la biodiversité. Donc voilà, en fait, c'est cette modularité, je dirais, des énergies renouvelables qui fait que on peut avoir des parcs de toute taille. Parfois, on a des parcs de différentes générations. Mmh. Vous savez, parfois on dit, les éoliennes produisent très peu ou font plus de bruit. Mais
c'est en vrai fait, premières, ça, en fait.
C'est les premières. Et en fait, sur les énergies renouvelables, on est vraiment au début. Et même aujourd'hui, dans les travaux de recherche, c'est très compliqué de savoir de quoi elles sont composées, tout ça, parce que ça évolue en permanence, les puissances évoluent en permanence, les hauteurs aussi. Et l'année dernière, innovation qu'on a mis, c'est qu'on a mis des peignes sur les pales, justement, pour que ça fasse moins de bruit. Donc, on voit des parcs de toute taille.
Vous nous parlez de recyclage, du coup, puisqu'on peut changer régulièrement. On en parlera dans un instant. Je voudrais passer la parole à Geoffroy Marx, vous qui êtes responsable énergie biodiversité à la LPO. Nicolas Goldberg vient de nous parler, effectivement, de parfois, on fait attention, on regarde les passages de certains oiseaux, etc. Est-ce que c'est souvent un problème, Geoffroy Marx ? Est-ce que désormais, vous diriez qu'on apprend aussi à travailler entre spécialistes de l'énergie, entre spécialistes de la biodiversité, des oiseaux, etc. Est-ce qu'on a appris à travailler ? Est-ce qu'on a encore beaucoup à apprendre l'un de l'autre ?
Je pense que oui. Ça fait déjà une vingtaine d'années que des associations, des chercheurs et les professionnels de l'éolien travaillent ensemble pour justement essayer de comprendre quels sont les impacts potentiels des éoliennes, comment on peut les éviter, les réduire, etc. Quels sont les facteurs qui font que sur certains parcs, on a des mortalités qui sont extrêmement problématiques et sur d'autres, non. Donc oui, ça fait partie quand même d'une filière éolienne avec laquelle il est encore possible d'échanger et de progresser.
Parce que vous, là en l'occurrence à la LPO, on parle des oiseaux, on entend beaucoup des arguments qui disent les éoliennes tuent les oiseaux. Est-ce qu'on peut dire, à quoi on peut répondre à ça ? Est-ce qu'on dit clairement non, c'est pas vrai, plus maintenant, parce qu'on sait où les implanter, on sait comment ça marche ? Est-ce qu'on dit oui, c'est vrai, et c'est d'ailleurs un problème que pour l'instant on n'a pas totalement résolu ?
Alors, la LPO ne s'intéresse pas qu'aux oiseaux.
Certes, non.
Ça fait déjà quelques années qu'on s'intéresse à l'ensemble de la biodiversité. Et en l'occurrence, oui, les éoliennes tuent des oiseaux, comme tous les obstacles qui se trouvent dans l'espace aérien. Donc ça, il n'y a pas photo. Ensuite, il est possible de choisir l'implantation, les sites d'implantation des éoliennes, de manière à minimiser cet impact sur les oiseaux. Donc Quand on fait des suivis de mortalité sous les éoliennes, hein, des suivis qui sont protocolés avec des tests qui permettent de prendre en compte l'efficacité des observateurs, de prendre en compte la durée de persistance des cadavres en fonction des prédateurs, etc., on se rend compte que y a des parcs sur lesquels on retrouve beaucoup de mortalité et d'autres sur lesquels il n'y en a pas. Et sans surprise, les parcs où il y a beaucoup de mortalité, ce sont ceux qui sont implantés dans des sites qui sont connus pour présenter de forts enjeux de biodiversité, notamment pour la vie faune.
Des questions très précises, notamment celle de Michel. Bonsoir Michel.
Oui, bonsoir.
On vous écoute.
Alors voilà, je voulais simplement poser une question. Une éolienne du type de celles qui sont implantées en Beauce, est-ce qu'on a une idée du prix clé en main?
Alors, moi, je sais pas. Vous j'imagine, Nicolas Goldberg, vous savez à peu près quel est le type d'éolienne implantée en Beauce ou pas?
En fait,
on les a pas en vue là.
En fait, je saurais pas vous dire le prix d'une éolienne en Beauce parce que ça va dépendre de beaucoup de choses. Ça va dépendre de la taille du parc, ça va dépendre du lieu d'implantation, qui est extrêmement important parce que les revenus générés par une éolienne dépendent du vent.
Ouais.
Donc, suivant que vous l'orientez d'une certaine façon ou que vous la mettiez en amont ou en aval du village, c'est vraiment pas pareil. Aujourd'hui, ce qu'on peut dire sur l'éolien, c'est qu'il y a c'est que pour les petits parcs qui se développent, il y a un tarif de rachat garanti par l'État, qui garantit du coup une rentabilité sur toute la durée de vie de l'éolienne, qui est autour de, alors je vais vous dire 70 € du mégawattheure. Je ne sais pas si ça parlera vraiment aux auditeurs, mais on en est là, c'est au-dessus du prix de marché, mais comme tous les moyens, parce que le marché ne fixe pas un bon signal prix. Et après, il y a pour les grands parcs éoliens, il y a un système d'appel d'offres de l'État où là la concurrence joue justement pour faire baisser les prix d'implantation.
Et alors du coup pour ramener Michel dans la Beauce, qu'est-ce que ça veut dire pour lui et pour sa facture électrique, tout simplement, ne serait-ce que ça, en fait.
Alors, en fait, sur les sujets financiers autour de l'éolien, il y a deux choses. Il y a ce que ça va lui coûter, il y a ce que ça va lui rapporter. Ouais. Donc, je passe sur les bénéfices climatiques parce que je pense qu'on est bien au courant. Mais en tout cas, il faut savoir que quand une éolienne est implantée quelque part dans un village, elle va payer des taxes locales. Donc, 70% iront au bloc communal et une autre partie iront à la région et au département. Donc déjà, il faut savoir que quand vous avez des éoliennes à côté de chez vous, enfin, vous pouvez demander à votre maire, vous pouvez vous renseigner auprès de votre région de tout ce que ça rapporte comme taxe locale à votre bloc communal ou la commune tout court et à la région. Ensuite, sur ce que ça change sur la facture d'électricité. Aujourd'hui, donc le prix est garanti par l'État, c'est-à-dire que en fait c'est l'État qui paye, donc nous en fait, donc les impôts. Avant 2016, c'était l'État avait mis en place une taxe sur les factures d'électricité, ce qu'on appelait la CSPE, que vous pouvez tous voir sur votre facture d'électricité, qui augmentait au fur et à mesure que les charges des renouvelables augmentaient. C'est-à-dire, plus on mettait de renouvelables, et plus cette taxe augmentait. En 2016, on a dit c'est plus possible, on peut pas augmenter indéfiniment cette taxe, d'autant plus qu'on va mettre de plus en plus de renouvelables. Donc aujourd'hui, en fait, tout ça est financé directement par le budget de l'État et la taxe en question a été gelée. Donc en fait, aujourd'hui, directement sur votre facture d'électricité, ça ne change rien. Par contre, ça change les charges de l'État et donc les dépenses de l'État. Évidemment.
Dans la suite de la question de Michel, il y a aussi combien de temps ça dure, en combien de temps c'est amorti une éolienne. Est-ce que ça s'amortit? Vous disiez tout à l'heure qu'il y avait des vieux parcs et des jeunes parcs. On est un parc obsolète au bout de combien de temps désormais?
En fait, l'État garantit les tarifs de rachat entre 15 et 20 ans. Ce qui est censé couvrir toute la durée de vie de l'éolienne. Et donc, normalement, elle est amortie au bout de ce temps-là avec une rentabilité qui dépend de l'aléa de la vie, de ce qu'elle a effectivement, produit et de ce que le producteur a prévu en marge au début. Donc, normalement, c'est ça. Après, une éolienne peut fonctionner parfois plus longtemps. Et donc là, c'est tout bénéfice pour l'exploitant. Mais donc, normalement, entre 10 et 20 ans, c'est amorti et c'est garanti par l'État.
Ce qui nous amène directement à la question de Lorenzo, à laquelle vous pourrez répondre tous les deux d'ailleurs avec Geoffroy Marx. Bonsoir Lorenzo.
Bonsoir.
On vous écoute.
Alors voilà, je voulais un petit peu faire un bref témoignage suivi de ma question. Mon témoignage est que dans les années 80, je vivais au Danemark et en Allemagne et j'ai participé à la construction qui était souvent sous des modes associatifs, etc., des premières grosses éoliennes. C'était des chantiers participatifs, etc., des éoliennes qui atteignaient 40, 50, voire 60 mètres de hauteur, notamment dans l'ouest du Danemark. Les besoins en énergie de l'Europe à cette époque-là étaient à peu près 2,5 fois moindres que ceux d'aujourd'hui. Donc d'un côté, je trouve qu'on a une voracité énergétique qui est sans cesse croissante. Les 6% que l'on produit avec nos éoliennes aujourd'hui, est-ce qu'on pourrait largement les absorber en diminuant de 6 ou 10% notre gaspillage et notre gloutonnerie énergétique? Et du coup, pourquoi aujourd'hui les éoliennes ont besoin de faire près de 200 mètres de haut, alors que celles qui sont plus petites, alors évidemment, ça mange du terrain de faire une éolienne, donc autant la faire le plus haut possible, mais le gigantisme, et c'est le gigantisme qui pose problème et qui fait qu'il y a rejet dans la population. Peut-être que si on faisait des éoliennes à taille plus humaine, donc de 30, 40, 50 mètres, ça aurait moins de rejets et du coup il y aurait le problème du recyclage aussi qui serait moins embêtant. Donc je voulais savoir comment aussi on recycle ces énormes machines au bout de 15 ou 20 ans.
Geoffroy Marx, c'est à vous que je vais poser la question. En deux temps d'ailleurs, alors effectivement, qu'est-ce que vous dites, vous, depuis votre chapelle à vous, du recyclage? Et surtout, est-ce qu'il y aurait une meilleure acceptabilité, selon vous, si elles étaient plus petites? Ce qui sous-entend, effectivement, comme dit notre auditeur, que peut-être il y en aurait plus. Donc, il y a quand même quelque chose à mettre sur une balance. Mais qu'est-ce que vous en dites?
Alors, le problème des éoliennes, c'est que leur production, elle dépend du carré de la taille, en fait. Mm-hmm. C'est-à-dire que diminuer de moitié la taille d'une éolienne, ça diminue pas simplement de moitié la production, ça la diminue d'un facteur 4. Mm-hmm. Donc, ça augmenterait énormément le nombre d'éoliennes en France, sans forcément réduire les impacts, enfin, en tout cas pas tous. Donc c'est vraiment un calcul à faire là comme ça.
Oui, non, mais je vois bien ce que vous voulez dire. Je comprends la problématique de Lorenzo, mais c'est pas aussi simple que ça en a l'air.
Ouais, en ce qui concerne la biodiversité, ouais, ce qu'on observe, c'est que finalement les éoliennes qui ont le bas des pales, le plus bas du sol, près du sol, sont finalement plus problématiques, notamment pour les chauves-souris, pour certains rapaces, que des éoliennes qui seraient plus grandes. Et avec des pales plus petites, oui. Mm-hmm. Donc qui seraient plus hauts.
Donc finalement, plus c'est haut, mieux c'est, en fait.
Ça dépend des espèces, ça dépend des problématiques qu'on prend en considération. Moi, je vous réponds en ce qui concerne la biodiversité. Ensuite, ça, si vous traitez sur l'angle du paysage, vous aurez une autre réponse, sans doute.
Célia. Et est-ce que justement, du point de vue de la biodiversité, la solution n'est pas les éoliennes en mer, qui sont des éoliennes effectivement plus hautes, plus puissantes? Est-ce que finalement, c'est pas une solution?
C'est une solution pour ne pas tout mettre à terre, c'est sûr. Ça permet d'aller chercher des nouveaux espaces où il y a parfois moins de contraintes, un meilleur vent, un meilleur potentiel éolien également. Par contre, quand on regarde clairement ce qu'implique une transition énergétique, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a un mix énergétique qui est constitué à deux tiers d'énergie fossile, hein, il faut pas l'oublier. Donc on a un gros tiers de pétrole, un petit tiers de gaz, et puis l'électricité, là-dedans, c'est que 25%. Et ce dont on veut se débarrasser, c'est pas du nucléaire, hein. Ce dont on veut se débarrasser, c'est les deux tiers de fossiles. Donc ça, comment on fait? il faut forcément réduire énormément notre consommation et notre production d'énergie, et il faut substituer le reste par des énergies qui sont peu émettrices de gaz à effet de serre. Et forcément, il y aura beaucoup, beaucoup, beaucoup d'éolien. Quand on regarde les scénarios qui sont envisagés par RTE, enfin, beaucoup d'énergies renouvelables en général, hein, pas que de l'éolien, mais quand on regarde les scénarios qui sont envisagés par RTE, il faudra de l'éolien à terre, il faudra de l'éolien en mer, il faudra du photovoltaïque. C'est même malheureusement incontournable. Si on veut se passer des fossiles, hein, c'est ça l'objectif. Hein.
J'ai une question pour vous, Célia, là-dessus, parce que effectivement, Geoffroy Marx nous dit, il faudra de toute façon consommer moins. Je l'évoquais tout à l'heure en introduction, très sincèrement, dans les projections qui sont faites sur les 10-20 prochaines années, est-ce qu'on consomme moins? C'est la question que j'avais vous posée.
En fait, ça dépend de quoi on parle. Est-ce qu'on consommera moins de fossiles? Il faut l'espérer, parce que justement, la France a pour objectif climatique quand même de diminuer ses émissions de CO2 à horizon 2030. Donc il faut espérer qu'on consomme moins de fossiles,
oui,
c'est certain.
Plus d'électricité,
évidemment, on va avoir le véhicule électrique qui va arriver. Ouais. Il y a l'essor du numérique. Donc même si on gagne en efficacité, la projection, c'est bien de basculer une partie de la consommation des fossiles sur l'électricité. Après, l'auditeur qui a posé une question a raison sur un point, c'est que si on continue à consommer autant, à avoir autant de voracité énergétique, c'était son point, sans faire de la sobriété et de l'efficacité, c'est-à-dire en faisant mieux et en s'interrogeant sur nos besoins, ça va être très compliqué de respecter nos engagements climatiques, quand bien même on aura du nucléaire et des renouvelables. Donc effectivement, il faut se poser la question du besoin et surtout arrêter le gaspillage et aller vers plus d'efficacité, mieux isoler les logements. Et si on électrifie, le faire peut-être avec des voitures qui seraient plus légères.
En l'état, j'entends bien que ça n'a pas beaucoup de sens, mais pour qu'on comprenne, moi je voudrais savoir si une centrale et quatre réacteurs, si on veut produire exactement le même degré d'électricité, remplacer par de l'éolien, il faudrait combien d'éoliennes? Alors, j'entends bien que c'est évidemment pas comme ça que ça se passe, mais pour qu'on ait une idée un peu précise et pour qu'on voit à quoi on peuvent ressembler aussi nos paysages de fait.
En fait, aujourd'hui, donc il y a les scénarios de RTE qui ont été évoqués. On voit que forcément, quand vous mettez plus de nucléaire, vous avez beaucoup moins d'éolien. Vous en avez toujours, mais vous en avez beaucoup moins. Aujourd'hui, une centrale type comme Fessenheim, par exemple, avait deux réacteurs. Okay. Si on veut remplacer ça uniquement par de l'éolien, ouais, ça se compte en milliers, voire en dizaines de milliers d'éoliennes. Donc, c'est plutôt en milliers d'éoliennes. Donc, c'est effectivement pas négligeable. Et c'est
mais en milliers, comme 3000 ou comme 10 000?
Plutôt comme 5 ou 6 000.
Ah oui, d'accord.
Donc okay. plutôt comme 5 000. Donc effectivement, on voit que il y a peut-être une alliance à trouver entre les renouvelables et le nucléaire. C'est aussi le sens d'une des parties des scénarios étudiés par RTE pour peut-être limiter l'éolien à terre et même en mer, puisque si on veut atteindre la neutralité climatique à horizon 2050, mais que vous dites on le fait sans le nucléaire, il va falloir déployer une sacrée quantité d'éolien à la fois terrestre et en mer, et de panneaux solaires. Et pour ça, il y aura besoin de foncier, et ça va prendre du temps.
Et si on passe de 70% à 50% de nucléaire, ça veut dire qu'il faut développer le parc éolien à quelle échéance et à quel volume?
Tout dépend, en fait, de l'échéance que vous mettez, de l'efficacité énergétique que vous mettez en face. Parce que aujourd'hui, dans les projections, justement, des scénarios de RTE en question, on voit que on va baisser le nucléaire parce qu'on n'arrivera pas à le construire aussi vite qu'on l'a construit dans les années 80 et que ce parc il vieillit aussi vite qu'il a été construit, c'est-à-dire très vite. Donc forcément, on va faire décroître le nucléaire. Ensuite, sur la quantité d'éolien qui sera déployée, aujourd'hui, la PPE, la programmation pluriannuelle de l'énergie, qui vise justement à baisser nos émissions de CO2 et à fermer seulement 4 réacteurs nucléaires, prévoit qu'on aura deux fois plus d'éolien en France, enfin deux fois plus de mâts éoliens en France qu'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on est autour de 7 000. C'est prévu que dans 10 ans, on soit autour de 14 000, mais avec beaucoup plus de puissance, puisque les technologies se seront améliorées d'ici là. Donc normalement, on devrait multiplier la puissance par 3, mais ne multiplier le nombre de mâts que par 2.
On va écouter Hugo qui veut nous parler d'éolien offshore, d'éolien en mer, et ça nous amènera aussi à une autre question. Bonsoir Hugo.
Oui, bonsoir.
On vous écoute.
Merci de prendre la question. Je vais juste la faire un tout petit peu évoluer compte tenu de ce qui vient d'être dit. Je voulais quand même faire remarquer que l'énergie nucléaire est certes une énergie décarbonée, mais ça n'est pas une énergie verte, ça n'est pas une énergie propre, tant qu'on n'aura pas résolu la problématique des déchets. Donc, il me semble qu'on doit absolument poursuivre et accélérer de façon majeure le développement de l'éolien, et en particulier l'éolien offshore, qui est beaucoup plus efficace que l'éolien terrestre. Mais ma question du coup, c'est pourquoi est-ce qu'on y arrive au Danemark et au Royaume-Uni qui ont dès aujourd'hui une énorme capacité en termes d'éolien offshore et qui cohabitent très bien avec les activités de pêche, alors qu'en France, on n'a quasiment pas d'éolien offshore chaque fois qu'il y a un projet, il y a une levée de bouclier de l'industrie.
Alors, on n'en a pas du tout, puisqu'on a Saint-Brieuc qui est en construction, on a Saint-Nazaire aussi, mais les chiffres, moi je les ai, 2300 offshore éoliennes en mer, en Grande-Bretagne, 1500 en Allemagne, 559 au Danemark. C'est d'abord à vous que je vais poser la question, Geoffroy Marx. Comment se fait-il qu'il y a une opposition plus forte pour ce qui est de l'implantation en mer que même sur Terre?
Je pense qu'un premier facteur, c'est le manque de concertation et de co-construction et de planification des projets. C'est ce qui a mené à des problèmes, notamment sur le projet du Tréport, qui a été lancé, abandonné, relancé, etc. Et c'est ce qui va poser problème également pour de futurs projets éoliens qui sont envisagés dans des zones complètement insensées, en Natura 2000, dans des parcs naturels marins, comme le parc de Dunkerque, comme celui d'Oléron, par exemple. Donc ça, c'est des projets qui forcément vont traîner des années et des années pour peut-être aboutir ou pas.
Geoffroy Marx, qu'on a lancé des choses, en fait, qu'on les a lancées trop tôt, qu'aujourd'hui, il y a des préoccupations et des concertations qui ne se faisaient pas avant, et qu'on se retrouve avec sur les bras, pardon de le dire comme ça, des projets qui ont été mal fagotés au départ? C'est ça que ça veut dire, quand on pense à l'île d'Oléron, par exemple?
Alors trop tôt, je sais pas. Hein, l'île d'Oléron, ça fait un petit bout de temps qu'il en est question, mais c'est surtout que c'est fait en dépit du bon sens. C'est-à-dire que aujourd'hui, on lance un projet sur Oléron alors que les études environnementales sont pas encore réalisées, alors que bon, le débat public va bientôt avoir lieu, il va débuter en septembre. Mais c'est ce qui est incroyable, c'est que on se précipite en fait, on se précipite sur ces projets qui ont l'air faciles parce qu'il y a déjà des développeurs qui se sont lancés dans l'affaire, mais qui en fait posent énormément de problèmes. Peut-être qu'il faudrait mieux attendre les retours d'expérience sur les premiers parcs. C'est ce qui était envisagé hein, tout au début. On n'était pas censé lancer de nouveaux appels d'offres tant que les premiers parcs n'étaient pas en service et tant qu'on n'avait pas des retours d'expérience.
Mais du coup,
comme pour l'EPR.
Qu'est-ce qu'on fait des retours d'expérience des Britanniques et leurs 2300 éoliennes offshore pour les presque 600 au Danemark? Qu'est-ce qu'ils disent, eux, en fait, Geoffroy Marx, en termes de ce qu'on a abîmé, des habitats qu'on a pu détruire, des difficultés qu'il peut y avoir à recréer derrière ensuite un habitat autour de ces éoliennes? Qu'est-ce qu'ils disent, les exemples que nous avons, même si ce ne sont pas les nôtres?
Alors, les impacts de l'éolien en mer, ils sont en partie semblables à ceux des éoliennes à terre, c'est-à-dire qu'il y a d'une part un risque d'impact sur les habitats eux-mêmes, les habitats benthiques en particulier, c'est-à-dire les fonds marins, un risque de dérangement des espèces, alors que ça soit les oiseaux, mais que ça soit également toute la faune sous-marine, les poissons, les mammifères marins, notamment pour les mammifères marins durant la construction, avec ce qu'on appelle le battage de pieux. C'est lorsqu'on frappe sur des énormes pieux pour constituer les fondations, en quelque sorte, et donc ça crée des impacts acoustiques qui sont assez importants et qui peuvent blesser, voire tuer dans certains cas des animaux qui seraient à proximité. Et puis ensuite, c'est le risque de collision et de dérangement en phase d'exploitation. Et ce risque-là, il est d'autant plus important qu'on se trouve sur une voie migratoire d'ampleur, on va dire, mondiale. Hein. C'est un peu l'autoroute des oiseaux, la voie de migration est-atlantique. Donc, tout ça fait que certains projets, notamment, comme je disais, hein, celui d'Oléron ou celui de Dunkerque, qui est dans le goulot du Pas-de-Calais, qui est une voie de migration également très, très importante, peuvent poser de gros problèmes. Alors, on retrouve pas forcément les mêmes enjeux sur d'autres parcs, hein, au Danemark ou en mer Baltique ou au large du Royaume-Uni, on n'a pas forcément les mêmes problématiques.
Mais effectivement, sur les oiseaux, la ministre s'est engagée à ce que les prochains parcs éoliens ne soient pas sur les routes de migration, mais concernant la biodiversité marine, j'ai l'impression au contraire qu'il n'y a pas réellement de consensus scientifique, puisque certains scientifiques disent plutôt que les éoliennes peuvent même avoir un effet bénéfique sur la biodiversité, certaines éoliennes ayant un effet récif, en fait, comme une épave, c'est-à-dire que dans un premier temps, des algues viennent se placer là, puis des moules, puis des crabes, et sur la chaîne trophique, ça peut avoir des effets positifs.
C'est le cas déjà des puits de pétrole offshore, d'ailleurs, c'est ce qu'on dit, des puits de pétrole offshore, donc du coup, effectivement...
Donc les dangers sont plus sur la biodiversité, sur les oiseaux, finalement, que sur la biodiversité marine?
Alors, l'effet récif, il est largement survendu. Hein. Il existe, il n'est pas forcément nécessairement positif. Hein. Ça peut être très bien des espèces exotiques, envahissantes, qui vont venir se fixer après les fondations d'éoliennes. Il peut exister, mais il est pas. Il faut pas s'attendre à avoir un récif de coraux avec toute une faune qui va se développer d'un coup comme ça au pied des machines.
Non.
C'est un peu survendu. Par contre, ce qu'il peut y avoir, c'est un effet réserve. C'est-à-dire lorsque
les poissons se développent davantage.
Lorsqu'il n'y a pas de pêche à l'intérieur d'un parc, il peut y avoir un effet réserve. Qui est souvent, par contre, quand on regarde les études hein, qui ont été réalisées dans les pays du Nord, l'effet réserve qui est souvent contrebalancé par une surpêche à l'extérieur du parc. Donc, lui aussi est relativement limité.
Nicolas Goldberg, il avait raison, notre auditeur, quand il dit, cela dit, qu'il y a plus d'efficacité, en fait, au aux éoliennes offshore. En termes d'efficacité, qu'est-ce que ça veut dire? En fait, qu'est-ce qu'on gagnerait sur les fameux 3 ou 5 000 éoliennes dont vous me parliez tout à l'heure?
Oui, enfin, sachant que c'est pas comparable.
On est d'accord, mais...
En fait, il y a plusieurs choses qui ont été dites dans le témoignage de l'auditeur. La première, c'est qu'effectivement, le vent est beaucoup plus prévisible et beaucoup plus fort en mer, surtout au large des côtes. Et bien évidemment, les éoliennes offshore, on les implantera à 15-20 km des côtes. Donc forcément, on aura un facteur de charge, c'est-à-dire une production électrique.
C'est-à-dire qu'il y a moins d'intermittence.
Il y a moins d'intermittence, il y a surtout plus de production, en fait. C'est là où c'est plus efficace. Ensuite, sur le retour d'expérience de l'Angleterre et le Danemark, le pays en Europe qui a le plus réduit ses émissions de CO2 ces dernières années, c'est effectivement l'Angleterre. Enfin, le Royaume-Uni, donc un bel exemple à prendre. Mais ce qu'il faut pas oublier, parce que après on a opposé un petit peu énergie renouvelable et nucléaire, il faut voir que le Royaume-Uni a gardé ses centrales nucléaires et en construit même d'autres. C'est-à-dire que nous on construit l'EPR de Flamanville, eux ils construisent deux nouveaux réacteurs nucléaires avec EDF, c'est les réacteurs nucléaires d'Hinkley Point. Donc en fait, ce que cet exemple nous dit, c'est qu'effectivement, ce serait intéressant d'accélérer un petit peu sur l'éolien offshore, parce que ça apporte quand même un service d'électricité décarbonée et renouvelable. Mais ce que nous montre l'exemple du Royaume-Uni, c'est qu'ils le font avec le nucléaire pour garder une énergie pilotable. Au Danemark, c'est un petit peu différent. C'était un pays qui dépendait énormément du charbon, qui dépend toujours énormément du charbon, mais moins grâce à l'éolien et surtout grâce au fait qu'ils sont connectés à la Norvège et que donc quand l'éolien produit moins, ils peuvent profiter des barrages norvégiens pour s'alimenter en électricité. Et c'est là qu'on voit qu'il y a une certaine complémentarité des énergies entre elles. On peut pas dire qu'on remplace du nucléaire par de l'éolien parce que c'est pas le même service rendu. Il y en a un qui dépend du vent, l'autre qui dépend d'autres choses. Mais effectivement, il y aurait un intérêt à accélérer sur l'offshore comme le fait le Royaume-Uni, sans négliger le nucléaire. Et là où on voit qu'on a le plus d'opposition dans le déploiement des parcs offshore, c'est effectivement sur les pêcheurs. Donc où là, à mon avis, il y a un manque de consensus scientifique, il y a un manque de données qui fait que voilà, on ne sait pas quelle est l'ampleur de l'effet récif, on ne sait pas quelle est l'ampleur de l'impact pour les pêcheurs. Et les plages danoises sont pas exactement les plages françaises non plus. C'est-à-dire que il y a certains villages côtiers où on s'inquiète de l'implantation d'éolien en disant est-ce que nos plages seront toujours aussi belles et visibles? Est-ce que l'île d'Oléron, qui est une très belle île touristique, sera toujours prisée pour son tourisme? Là, effectivement, il y a un manque de recul. Je dirais là-dessus, il y a un manque de données qui complexifie en fait la connaissance des faits et qui donc peut renforcer l'opposition.
Parce que Célia, pour nous donner une idée, le parc de Saint-Brieuc par exemple qui va voir le jour, ça veut dire
60
quoi
60 éoliennes.
En fait ouais, c'est ça, voilà.
C'est 60 éoliennes, donc 200 mètres de haut sur différentes lignes où les bateaux de pêche pourront passer. Donc
ça veut dire que ça s'étale sur quoi, il y aura sur 50 km, sur combien en fait, sur l'ensemble de ces 40, vous m'avez dit combien
60 éoliennes. 62 éoliennes, 200 mètres de haut. J'ai plus la superficie en tête, mais c'est effectivement assez important. C'est cette ligne, en fait, d'éoliennes.
Jean-Luc est avec nous. Bonsoir, Jean-Luc.
Bonsoir.
On vous écoute, Jean-Luc.
Je voulais témoigner et poser une question, parce que je suis sur Ouessant, à l'île d'Ouessant, donc à la pointe occidentale de la Bretagne, à 15 km du continent. Et sur l'île d'Ouessant, il y a un projet très, très avancé, puisque les choses sont en train de se préparer, là, de création d'une éolienne sur la partie sud-est de l'île, à Arlan, une zone vierge de toute habitation, où il y a une très grande richesse de la faune et de la flore, avec donc une grande biodiversité. Et donc cette éolienne va être implantée sur une zone où il y a une colonie de craves bec rouge, enfin des oiseaux emblématiques d'Ouessant, à 300 mètres d'un cromlech. Cromlech, c'est un... On va dire, c'est à l'image de Stone Age en Écosse, hein, avec un ensemble de structures circulaires de roches, avec les 19 roches, les 19 faces de la Lune, etc. Enfin, il y a beaucoup de touristes qui viennent voir ça. Et moi, je voulais alerter parce que le maire, qui a donné son feu vert, évidemment, a des projets très louables puisqu'il veut l'autonomie énergétique de l'île. Sur Ouessant, on a une centrale à fioul avec 6 mètres cubes de fioul. Enfin, c'est très, très gourmand en énergie et très, très, pénalisant sur les polluants. Donc moi, enfin, beaucoup de gens trouvent que le dossier est complexe. Ce qu'on a à déplorer, c'est que il n'y a pas eu de discussion publique. Et on voudrait savoir comment faire pour raisonner notre maire, pour pour identifier le cas échéant d'autres pistes pour que à Ouessant on ne voit pas cette éolienne érigée à la pointe d'Arlan qui serait vraiment catastrophique pour Ouessant et pour plein d'autres choses.
Merci beaucoup Jean-Luc Geoffroy-Marx. Il nous résume très bien le problème, Jean-Luc, parce que là où on compte installer cette éolienne, en effet, ça lui pose un vrai problème. Mais l'idée, c'est pas d'être contre pour le principe d'être contre, sachant très bien qu'effectivement, pour alimenter l'île, il faudra trouver autre chose. J'imagine que c'est un dossier que vous connaissez. Comment ça marche dans ces moments-là? Est-ce que effectivement, ça fait partie des options? On se dit OK pour l'éolienne, il faut trouver un endroit pour la mettre ailleurs. Est-ce qu'on peut la mettre ailleurs? Où on en est de ce genre de discussion aujourd'hui? Est-ce qu'on est meilleur?
Meilleur. Le projet éolien de Ouessant, c'est un projet très très particulier. Alors, je crois que c'est une éolienne qui est pas aussi grande que celle qu'on peut trouver sur le continent. Hein. Je crois qu'elle fait 60 mètres de haut en bout de pale. Donc, elle doit être soumise à une réglementation un peu particulière. Et c'est peut-être là qu'il n'y a pas eu de débat public, enfin, en tout cas d'enquête publique. Peut-être que l'auditeur pourra
Vous le savez, Jean-Luc?
Oui, c'est d'accord. On nous la vend pour une éolienne de 50 mètres de haut, sans les pales.
D'accord,
voilà, ok. C'est ça.
Mais c'est vrai qu'il n'y a pas eu d'enquête, on n'a pas été sollicité en tant que population.
D'accord.
Par contre, ce qui est étonnant, c'est que j'imagine qu'il doit y avoir une étude d'impact tout de même, puisque vous êtes dans un secteur, totalement cerné par une zone Natura 2000. Donc, il doit y avoir une étude d'incidence Natura 2000 qui doit réussir à démontrer l'absence d'impact sur cette zone. Je sais, honnêtement, j'ai pas suivi personnellement le dossier, donc je pourrais pas vous en dire plus.
Mais en tout cas, ça veut dire que, évidemment, qu'on en discute, évidemment que c'est important qu'il y ait cette concertation partout, Nicolas Goldberg.
En fait, je suis un peu surpris aussi qu'il n'y ait pas eu une étude environnementale, parce que si ce n'est pas le cas, le projet est attaquable. Donc, c'est peut-être ça qu'il faut regarder. Je suis un peu surpris. Après, je connais pas le point particulier, mais ce qui est intéressant sur l'île de Ouessant, et comme dans beaucoup d'autres îles, c'est qu'il faut savoir que les îles aujourd'hui fonctionnent au fioul et au charbon, et que le renouvelable justement permet de se passer de ces énergies fossiles.
Ce qui est aussi dans l'équation, effectivement, comme nous le disait en effet Jean-Luc. Il nous reste une poignée de secondes. Je me rends compte qu'on a mangé une question précédemment qui parlait de recyclage.
Oui.
Quand on change, on s'est recyclé ou pas?
Bah, on s'est recyclé une partie, pas les pales pour l'instant, parce qu'elles sont en matériaux composites, donc qui sont compliqués à recycler. Donc aujourd'hui, c'est enfoui sous terre, ce qui met 90% du reste de l'éolienne est recyclable. Et Vestas, donc qui est justement un producteur éolien danois, a annoncé que justement il pouvait faire des pales 100% recyclables.
Merci beaucoup, merci vraiment à tous, merci pour vos très nombreuses questions, merci à vous Célia aussi, portez-vous bien.